Chapitre 67. Beaucoup de choses se produisaient en même temps. La reine Mab entamait sa manœuvre d'approche en aérofrénage et une nuée de feu et de plasma nimbait le plateau pousseur drapé autour du derrière du spationnef de 340 mètres de long. Alors que la tempête ionique atteignait son point culminant, Summa 4 activa le largage de la navette porteuse. Personne n'avait pris la peine de lui trouver un nom, sort qu'elle partageait avec le bâtiment qui avait naguère conduit Manmut et Orphus sur Mars, les Moravec se contentant d'évoquer la navette lors de leurs échanges par Mazer ou faisceau cohérent. Dans sa soute, bien installée au creux de l'envirobulle de la Dame Noire, Manmut commentait les données vidéo provenant de la navette et de la reine Mab pour le bénéfice d'Orphus. L'ovoïde protégé par un bouclier de furtivité surgissait du vaisseau auréolé de flammes et traversait les couches supérieures de l'atmosphère à 5 fois la vitesse du son pour déployer ses moignons d'ailes lorsque leur célérité tomba à Mach 3. Le général Baby Nadi comptait à l'origine participer à cette mission de reconnaissance, mais les primes intégrateurs, considérant le danger potentiel que représentait la mystérieuse foi, avaient décidé qu'il resterait à bord du spationnef. Le centurion en chef Mepahu occupait donc le poste de commandement, un siège fixé devant le panneau de contrôle du compartiment passager, et derrière lui, sanglés dans leur filet de protection, bardés de toutes sortes d'armes énergétiques, se trouvaient 25 soldats Rokvec de la ceinture, qui avaient reçu leurs ordres de mission à bord de la reine Mab, tout juste après leur décongélation. Summa 4 était un excellent pilote. Manmut ne pouvait s'empêcher d'admirer l'habileté avec laquelle le Ganymédien guidait la navette dans la haute atmosphère, jouant des tuyères avec une telle délicatesse qu'on se serait cru à bord d'un planeur, et il sourit intérieurement en se rappelant comment Orphus et lui étaient entrés dans l'atmosphère martienne. Certes, il pilotait alors une véritable épave, mais Summa n'en méritait pas moins des éloges.
« Les données radar sont fort impressionnantes »,
émit Orphus depuis la soute.
« À quoi ressemble le visuel ?»«
Du bleu et du blanc », répondit Manmut. « Rien que du bleu et du blanc. C'est encore plus beau que les photographies. La Terre n'est qu'un grand océan. »«
Toute la Terre ?»
C'était la première fois que Manmut réussissait à surprendre son ami.
« Toute ? Un monde d'eau ? Le soleil se reflétant sur l'eau en un million d'éclats. Tous ces nuages blancs ? Les cirrus avec leurs filaments aériens, les stratocumulus qui se massent à l'horizon. Ah non, attends, c'est un cyclone. Oh, un cyclone de 1000 kilomètres de diamètre. Je distingue son œil, une roue blanche et fulgurante. C'est stupéfiant.
Nous suivons la trajectoire prévue. Descente au-dessus de l'Antarctique et traversée de l'Atlantique Sud en direction du Nord-Est.
La map se trouve de l'autre côté du globe et vient de sortir de l'atmosphère,
reprit Manmut.
Les satellites COM que nous avons lancés fonctionnent correctement. La vitesse de la Mab atteint 15 km par seconde et continue de décroître. Elle se dirige vers l'anneau polaire et utilise la propulsion ionique pour décélérer. Trajectoire conforme au plan de vol. Elle approche du point de rendez-vous. Personne ne lui a encore tiré dessus.
Personne ne nous a canardé non plus, ce qui est encore mieux,
ajouta Orphus. Summa 4 utilisa la résistance de l'air pour les amener au-dessous de la vitesse du son alors qu'ils survolaient le continent africain. Leur plan de vol prévoyait un passage au-dessus de la Méditerranée asséchée, durant lequel ils filmeraient les étranges constructions qui se trouvaient là, mais ils découvrirent dans cette zone la présence d'une sorte de champ inhibant formant un dôme de 40 000 mètres de haut. Non seulement la navette risquait d'être désactivée en le traversant, mais ainsi que le leur apprit Summa 4, le même sort frapperait sans doute tous les Moravec. Le Ganymédien vira vers l'est au-dessus du Sahara, contournant le bassin asséché par le sud, puis par l'est. La reine Mab continuait de leur envoyer des données relayées par une vingtaine de satellites de la taille d'un flocon de neige. Le spationnef avait atteint les coordonnées transmises par la voie, celles d'une zone située à la lisière de l'anneau polaire, à 2000 km de la cité orbitale d'où provenaient ses émissions. De toute évidence, la propriétaire de cette voie ne souhaitait pas voir s'approcher de trop près un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Outre les données en temps réel, la navette porteuse recevait de l'information par 20 faisceaux cohérents distincts à large bande passante. les images fournies par les caméras et les capteurs externes de la RENMAB, les échanges COM de la passerelle, les informations recueillies sur la surface terrestre par les satellites qu'ils avaient semés et les mesures physiologiques d'Odysseus. Non seulement les Moravec avaient truffé de nanocaméras et de transmetteurs moléculaires les vêtements de l'Achéen, mais en outre, ils avaient tenté, durant son sommeil, de fixer à son front des imageurs microscopiques, constatant à leur grande surprise qu'on lui avait déjà implanté des nanocaméras dans la peau. Ses canaux auditifs avaient également subi des altérations. Des récepteurs nanocytes lui avaient été ajoutés bien avant son arrivée à bord de la RENMAB. Les Moravec se contentèrent de régler ces appareils afin qu'ils transmettent leurs informations au spationef. Ils avaient équipé Odysseus de capteurs supplémentaires pour continuer à recevoir des informations, même en cas de décès de leur émetteur vivant. Ce dernier se trouvait actuellement sur la passerelle, en compagnie du prime intégrateur Astig Che de Rétrograde Sinopesen, de l'astrogateur Choli, du général Bebin Adi et des autres officiers supérieurs Moravec. Soudain, la RENMAB se mit à transmettre des données radio en temps réel, éveillant l'attention de Manmut et d'Orfu.
« Réception d'un nouveau message Mazer, » dit Choli. « Envoyez-moi Odysseus et personne d'autre, »
dit une voix féminine aux accents boudeurs.
« Placez-le à bord d'un bâtiment désarmé. Si je détecte la présence d'une arme quelconque ou d'une entité autre qu'Odysseus, robotique ou organique, je détruirai aussitôt votre vaisseau. »
« L'intrigue se complique, »
commenta Orfu sur le canal général de la navette. Les Moravec qui se trouvaient à bord de celle-ci virent avec une seconde de retard Odysseus se faire conduire par Rétrograde Sinopesen à la baie de lancement numéro 8. Comme tous les frelons étaient armés, seule une des nacelles de construction naguère utilisées sur Phobos satisfaisait aux critères édictés par la voie. Il s'agissait d'un bâtiment minuscule. Un ovoïde télécommandé, tout juste assez spacieux pour abriter un humain adulte sans vidoscaphe, et tout en aidant le guerrier achéen à s'insinuer entre les câbles et les consoles, le minuscule Moravec lui demanda
« Êtes-vous sûr de ce que vous faites ?»
Odysseus fixa la Maltéen aux pattes d'araignée durant un long moment. Finalement, il déclara en grec ancien
« Je ne puis demeurer en repos. Je veux boire la vie jusqu'à la lie. Toujours j'ai goûté de nobles joies et de nobles souffrances, tant avec ceux qui m'aimaient que seuls. À terre, et lorsqu'à travers les vapeurs chassées par l'ouragan, les pluvieuses iades agitaient la mer obscure, je suis devenu fameux. J'ai vu beaucoup et connu beaucoup, les cités des hommes et leurs mœurs, les climats, les conseils, les gouvernements. Moi-même, non le moindre parmi eux, mais honoré de tous. Et j'ai goûté les délices du combat avec mes pères loin d'ici, sur les plaines résonnantes de Troie, cité des vents. Qu'il est triste de s'arrêter, d'accepter la fin et de se rouiller dans l'inaction au lieu de se polir par l'usage. Comme si respirer était vivre. Une multitude de vies accumulées eussent été trop peu pour moi, et d'une seule bien peu me reste. Du moins, chacune de mes heures est préservée de cet éternel silence. Mieux encore, est riche de nouveaux dons. Et il serait indigne pour quelques trois soleils de me cloîtrer. Ferme cette putain de porte, araignée.
Mais c'est...
commença Orfu.
Il a fait un tour dans la bibliothèque du...
commença Manmut.
Silence !
Ordonna Suma 4. Rétrograde Sinopesen scella la nacelle. Il s'attarda dans la baie, accroché à une traverse pour ne pas s'envoler sous l'effet de la dépressurisation, tandis que le petit ovoïde s'éloignait, propulsé par ses tuyères muettes. Après s'être stabilisé, il pointa son nez sur la cité orbitale, qui, vu la distance, n'était qu'une étincelle parmi les milliers composant l'anneau orbital, et fila rejoindre la voie.
« Nous arrivons à Jérusalem !»
annonça Suma 4 sur l'intercom. Manmut se concentra à nouveau sur les moniteurs et capteurs vidéo de la navette.
« Raconte-moi ce que tu vois, mon vieil ami. »
émit Orfu.
« D'accord. Nous sommes toujours à plus de 20 000 mètres d'altitude. En vision normale, je distingue la Méditerranée asséchée à une soixantaine de kilomètres à l'ouest, un patchwork de roches rouges, de terres noires et de champs verdoyants. Sur la côte, on aperçoit un gigantesque cratère là où se trouvait jadis la bande de Gaza. » Un cratère d'impact, sans doute, comme une crique en demi-lune, au bord du bassin asséché. puis ce sont les montagnes, et Jérusalem un peu plus loin au sommet de sa colline.
À quoi ressemble la ville ?
Attends, j'envoie le zoom. Oui, ça y est. Suma 4 a lancé un comparatif avec les photos satellites de la base histoire, et on voit bien que les banlieues et les quartiers neufs ont disparu. Mais la vieille ville est toujours là, à l'intérieur de ses remparts. Je vois la porte de Damas, le mur des Lamentations, le mont du Temple et la coupole du rocher. Plus une nouvelle structure qu'on ne voit sur aucune des antiques photos. Un édifice assez haut, tout en verre et en pierre polie avec de multiples facettes. C'est de là que jaillit le rayon bleu.
Je suis en train de consulter les données relatives à ce fameux rayon,
émit Orfu.
C'est bel et bien un rayon neutrinique, avec une enveloppe tachyonique. Je n'ai aucune idée de sa fonction exacte, et je parierais que nos scientifiques ne sont pas plus avancés.
Oh, attends un instant. Je viens de zoomer sur la vieille ville et elle grouille de vie.
De vie humaine ?
Non.
De ces robots acéphales et bossus ?
Non plus. Tu veux bien me laisser décrire ce que je vois à mon rythme ?
Pardon.
Je vois des milliers, non, des dizaines de milliers de ces amphibiens griffus et écailleux auxquels tu trouvais des ressemblances avec le caliban de la tempête.
Que font-ils ? Demanda Orfu.
Ils grouillent, tout simplement,
rétorqua Manmut.
Non, attends. Je vois des cadavres gisant sur le sol dans la rue de David, près de la porte de Jaffa. Et d'autres encore dans la rue El-Wad, près de l'esplanade du mur des Lamentations.
Des cadavres humains ?
Non, de robots acéphales et bossus. Ils sont littéralement réduits en pièces. La plupart semblent éviscérés.
Tu crois que ces monstres calibanesques s'en rebaissent ?
Aucune idée.
Nous allons survoler le rayon bleu,
avertit Suma 4 via l'intercom.
Que tout le monde se tienne tranquille. J'ai besoin d'orienter certains capteurs vers le rayon.
Est-ce bien sage ?
Demanda Manmut à Orfu.
Le concept de sagesse ne s'est jamais appliqué à cette expédition, mon vieil ami. Nous n'avons pas de ma guide à bord.
De quoi ?
De ma guide,
répéta Orfudio.
Dans l'ancien temps, les Juifs, je te parle d'un temps d'avant les guerres du califat, d'avant le Rubicon, d'une époque où les hommes se vêtaient de peaux de bête et de t-shirts. Les Juifs affirmaient que les sages avaient tous un maguide, une sorte de conseiller spirituel venu d'un autre monde.
Peut-être que c'est nous, les maguides,
répliqua Manmut.
Nous venons tous d'un autre monde.
Exact,
émit Orfu.
Mais nous ne sommes pas très sages. Manmut, t'ai-je déjà dit que j'étais gnostique?
Tu veux bien épeler?
Orfu Dio obtempéra.
Qu'est-ce que c'est qu'un gnostique ?
Demanda Manmut. Son vieil ami lui avait asséné pas mal de révélations ces derniers temps. Non seulement c'était un proustien émérite, mais c'était aussi un spécialiste de James Joyce et il pensait en avoir son comptant.
La définition importe peu,
répliqua Orfu.
Mais quelques dizaines d'années avant que Giordano Bruno périsse sous le bûcher à Venise, les chrétiens ont infligé le même sort à Salomon Molko, un mage soufi qui fut brûlé vif à Mantoue. Selon l'enseignement de Salomon Molko, lorsque viendrait l'heure du changement, le dragon serait détruit sans qu'il soit fait usage des armes, et tout serait transformé sur la terre comme au ciel.
Un dragon ? Un mage ?
Dit Manmut à haute voix.
Hein ?
Fit Suma 4 depuis le cockpit.
Pardon ?
Dit le centurion en chef Mepahu depuis son poste de commandement dans la cabine passager.
« Veuillez répéter, je vous prie »,
dit la voix polissée du prime intégrateur Astikche. Manmut comprit à ce moment-là que la reine Mab captait leurs échanges internes en plus de leur transmission officielle. Il espérait ardemment que leur conversation via le faisceau cohérent demeurait confidentielle.
« Peu importe »,
émit-il.
« J'attendrai le moment opportun pour t'interroger sur les mages et les dragons. » « Excusez-moi, je réfléchissais à haute voix »,
dit-il via l'intercom.
« Un peu de discipline dans les échanges radio !»
cracha Suma 4.
« Oui, à vos ordres !»
répondit Manmut. Dans la soute, Orfu Dio émit un grondement subsonique. La nacelle transportant Odysseus s'approchait lentement de l'étincelante cité de verre bâti sur l'astéroïde. Ses capteurs confirmèrent que ce dernier, un cylindre de forme irrégulière, mesurait environ 20 km de long sur près de 11 de diamètre. Sa surface de ferro-nickel disparaissait totalement sous les tours et les bulles d'acier, de verre et de buccicarbone qui s'élevaient parfois jusqu'à une hauteur de 500 mètres. Les capteurs de la nacelle s'intéressèrent à l'atmosphère de la cité, déterminant, en partie grâce aux inévitables fuites, que sa pression correspondait à celle régnant sur Terre, au niveau de la mer, que sa composition était un mélange d'oxygène, d'azote et de dioxyde de carbone correspondant aussi aux normes terrestres, et que sa température conviendrait parfaitement à un homme ayant vécu sur les rivages de la Méditerranée avant les changements climatiques de l'ère perdue. Un contemporain d'Odysseus, par exemple. Sur la passerelle de la reine Mab, qui stationnait à 1000 km de distance, les leaders moraveques se concentrèrent sur leurs capteurs et leurs écrans. Un tentacule d'énergie invisible venait de surgir de l'astéroïde de cristal pour se refermer sur la nacelle et l'attirer vers une sorte d'écoutille qui s'ouvrait sur la plus haute des tours.
« Désactivation des tuyères et du pilote automatique de la nacelle »,
ordonna Tcholi. Rétrograde Sinopesen passa en revue les données biotélémétriques d'Odysseus et déclara
« Notre ami humain se porte bien. Un peu excité, accélération du rythme cardiaque, augmentation du taux d'adrénaline. Le hublot lui permet de voir au dehors, mais rien d'anormal à signaler. »
Les holo-images se succédèrent au-dessus des consoles et de la table d'astrogation, tandis que la nacelle disparaissait dans le rectangle noir d'un sas. Une porte en verre se referma en coulissant. Les capteurs enregistrèrent un différentiel de champ de force qui la poussa vers le bas. Une pseudo-pesanteur équivalente à 0,68 g. Puis l'injection dans le sas d'une atmosphère aussi respirable que celle d'hélium.
Les données radio, maser et télémétrie quantique continuent de nous parvenir,
rapporta Tcholi.
Les murs de cette cité de verre ne les bloquent pas.
Ils ne se trouvent pas encore dans la cité,
grommela le général Bebinadi.
Pour l'instant, il est dans un sas. Ne soyons pas trop surpris si la voix coupe toute transmission une fois qu'Odysseus sera entré.
Grâce aux caméras épidermiques, dont les images étaient relayées jusqu'à la navette de largage, à présent distante de 50 000 km, tous virent Odysseus s'extirper de la nacelle, s'étirer et se diriger vers une porte. Vêtu d'une combinaison spatiale d'intérieur, l'humain avait insisté pour emporter son glaive et son bouclier, ignorant les protestations des Moraveks. Il brandissait l'un devant lui et tenait fermement l'autre tout en s'avançant vers la porte brillamment éclairée.
À moins que l'un de nous n'ait encore besoin d'examiner Jérusalem et le rayon neutrinique, je mets le cap sur l'Europe,
annonça Suma 4 via l'intercom de la navette. Personne ne protesta, bien que Manmut n'eût pas fini de décrire la vieille ville à Orfu. Le rouge du couchant sur les antiques édifices, l'éclat doré de la mosquée, les rues couleur d'argile et les ruelles peuplées d'ombres grises, le vert saisissant de quelques oliveraies et partout, partout, le glauque visqueux des créatures amphibies. La navette accéléra jusqu'à Mach 3 et fila au-dessus de l'antique cité de Dimashq, capitale de la Syrie, puis sous le règne de Khanotep, de la province de Nien Kentanglashan occidentale, Suma 4 veillant à rester à distance du dôme d'énergie inhibante érigé au-dessus de la Méditerranée asséchée. Comme il sortait de la Syrie pour virer à gauche et entamer la traversée de la péninsule anatolienne, autrement dit de la Turquie, l'appareil passa en mode furtif intégral et se maintint à une vitesse de Mach 2,8 et à une altitude de 34 000 mètres.
« Pouvons-nous ralentir et faire un tour sur la côte de la mer Égée, au-dessus des Dardanelles ?»
demanda Manmut.
« Nous pourrions, »
répliqua Suma 4.
« Mais nous sommes en retard et devons gagner au plus vite la cité de glace bleue. Qu'y a-t-il là qui vaille le détour ?»«
Le site de Troie, »
répondit Manmut.
« Ilium ?»
La navette décéléra et descendit lentement. Lorsqu'elle atteignit la vitesse ridicule de 300 km à l'heure, l'étendue vert et brun de la Méditerranée asséchée apparaissait droit devant, les eaux de Hellespont sur la droite, Suma 4 rétracta les ailes delta et déploya les ailes multiplans de 100 mètres d'envergure équipées de propulseurs à hélice. Manmut récita doucement.
« On dit qu'Achille frissonna parmi les ombres. Et voici que Priam et ses 50 fils... par le fracas des canons arrachés au sommeil, tremble pour Troie une nouvelle fois.
« De qui sont ces vers ?»
demanda Orfu.
« Je ne les connais pas. »«
De Rupert Brooke, »
répondit Manmut via le faisceau cohérent.
« Un poète britannique de l'époque de la Première Guerre mondiale. » Il les a composés en se rendant à Gallipoli, mais n'est jamais arrivé à destination. La maladie l'a emporté en chemin.
Par exemple, donna le général Bébinadi sur le canal général. Vous êtes peut-être indiscipliné pour ce qui est du protocole radio, petit européen. Mais ce poème est fichtrement bon.
Sur l'astéroïde de l'anneau polaire, la porte du sas s'ouvrit et Odysseus entra dans la cité de cristal. Tout autour de lui s'étendait une profusion de lumière, d'arbres, de lianes, d'oiseaux exotiques et de ruisseaux avec ici une cascade jaillissant d'un rocher paré de lichens, là des ruines antiques peuplées d'animaux sauvages. Odysseus vit un cerf cesser de brouter l'herbe pour lever la tête, considérer l'intrus qui s'approchait de lui armé de son épée, et s'éloignait d'un pas nonchalant.
« Les capteurs indiquent une forme de vie humanoïde à proximité, »
émit Cholly en direction de la navette.
« Le feuillage la dissimule pour le moment. »
Odysseus entendit d'abord un bruit de pas. Des pieds nus foulaient la terre compacte et la roche lisse. En apercevant la nouvelle venue, il baissa son bouclier et remit son épée au fourreau. La beauté de cette femme était indicible. Même les moravecs inhumains, à la carapace d'acier et de plastique, dont le cœur organique voisinait avec une pompe hydraulique, dont le cerveau organique cohabitait avec des systèmes de plastique et des nano-cerveaux-mécanismes, même les moravecs, à 1000 kilomètres de là, furent frappés par son incroyable beauté. Elle avait une peau bronzée par le soleil, de longs cheveux noirs striés de mèches blondes, dont les boucles cascadaient sur ses épaules nues. Elle était vêtue de la plus légère des tenues de pièces, un voile de soie chatoyante qui faisait ressortir ses hanches larges et ses seins généreux. Elle avançait les pieds nus, mais des anneaux d'or étaient passés à ses chevilles fines, et une myriade de bracelets ornaient ses poignets, et d'autres encore, en or et en argent, lui enserraient les bras. Comme elle s'approchait, Odysseus et les moravecs, l'un sur place et les autres dans l'espace ou au-dessus de l'antique Troie, purent détailler à loisir la courbe sensuelle de ses sourcils fins, le vert saisissant de ses yeux, la noirceur de ses longs cils, les ombres qui soulignaient le pourtour de ses yeux et qui ne devaient rien au maquillage, contrairement à ce que l'on avait pu croire de prime abord. Ses douces lèvres pulpeuses étaient d'un rouge intense. S'exprimant dans un grec ancien des plus parfaits, d'une voix aussi douce que la brise caressant un bosquet de palmiers ou une grappe de carillon éolien, cette beauté dit à un Odysseus tétanisé
« Bienvenue, Odysseus. Cela fait bien des années que je t'attends. Mon nom est Sycorax. »